Merci les brèches, Dominique et Nathalie, pour cette belle introduction sur la paix. Parce qu'on a tous en mémoire, les atrocités du 7 octobre commises par les combattants du Hamas, groupe terroriste. Il y a le LFI ou la LFI qui se déchire sur l'appellation groupe terroriste pour le Hamas. Il faut savoir que dans la charte du Hamas est inscrite la destruction totale d'Israël. C'est le but du Hamas. On se souvient de cette journée du 7 octobre avec cette incursion du Hamas dans les territoires d'Israël, dans les kibbutz, dans une rave party où des jeunes pacifiques dansaient et se réjouissaient, des familles décimées, des otages pris, des exécutions sommaires. Une horreur injustifiable. Et puis après, les bombardements de Gaza, avec aussi des familles décimées, aussi inacceptables. Quelques jours après le 7 octobre, nous lisions dans, je ne sais pas si vous l'avez, la Bible en 6 ans, il y en a sur le présentoir devant, et donc pour chaque jour, il y a un passage biblique. Et quelques jours après le 7 octobre, nous étions à Montaud, là, dans les Pyrénées, Yvonne et moi, et nous lisions le 16 octobre, je pense, dans ce lecteur, un texte dans les chroniques. Et ça nous parle, et le premier verset du chapitre 10 des chroniques, c'était le texte du jour, « Les Philistins firent la guerre à Israël ». Et un peu plus tard, c'est David, roi d'Israël, qui est devenu entre-temps roi d'Israël, qui fit la guerre aux Philistins. Alors, les Philistins, c'est la bande de Gaza. La Philistie, c'était la côte méditerranéenne à l'époque. Alors c'était un peu troublant, là, cette histoire. Et 3000 ans que Gaza et Israël se mettent l'un contre l'autre. Alors, et puis des questions, est-ce qu'il faut accepter la guerre et la barbarie et se dire c'est normal, ça continue, c'est comme ça ? Où nous situer dans le conflit ? Doit-on se situer dans ce conflit ? Où est Dieu là-dedans? Et pour y répondre, pour essayer d'y répondre, je vous propose de revenir à David, à ce roi d'Israël, dont l'étoile est au centre du drapeau israélien, l'étoile de David. Alors, David, je vous le rappelle, c'est le type sorti de derrière les troupeaux, le huitième fils d'Isaïe, sur lequel personne ne comptait, on n'aurait pas misé un copec sur le petit David, mais c'est lui qui est choisi pour être le roi d'Israël. C'est le prophète Samuel qui oint, du verbe oindre, qu'on utilise peu aujourd'hui, mais pour montrer le choix de Dieu. Et c'est pas un choix par hasard. C'est pas un numéro qui tombe comme au casino, qui sort à la roulette. C'est le choix du plus petit, du huitième, qui n'était même pas là dans la présentation de la famille d'Isaïe. Des fils d'Isaïe. Il était en train de paître les troupeaux. C'est le choix du plus petit, c'est le choix de la grâce. C'est le choix du cœur, car Dieu regarde non pas à l'apparence, mais au cœur. David est choisi comme roi. Il est oint par Samuel, mais ça ne veut pas dire que tout lui tombe dessus ou dans les bras sans rien faire. Quand on lit son histoire, on s'aperçoit que David doit se démener quand même pour devenir ce qu'il est déjà. Il doit faire preuve d'une grande persévérance pour devenir roi alors qu'il a déjà été oint par Samuel pour être roi. Et ça, c'est une bonne aussi image pour la vie chrétienne. C'est devenir dans la vie de tous les jours ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Mais David, à un moment de sa vie, commence à avoir un petit peu le bout du tunnel de ce combat incessant. Il est roi sur tout Israël et Juda, les ennemis sont pacifiés, et il a une idée qu'il a depuis longtemps, une idée qu'il caresse, le projet de sa vie, le rêve de sa vie. Et ce rêve, c'est tout simplement de construire un temple pour Dieu. Un temple pour remplacer le tabernacle. Vous savez, Indiana Jones, l'arche, etc., qui se baladait. Lui, il veut un temple fixe où Dieu peut demeurer et surtout où les hommes et les femmes peuvent le rencontrer pour résider son nom. Et David parle à Nathan qui a succédé à Samuel et il va lui dire, lorsque David se fut installé dans son palais, il dit au prophète Nathan, « Qu'en penses-tu ? J'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de l'Alliance de l'Éternel est logé sous une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Réalise les projets qui te tiennent à cœur, car Dieu est avec toi. » Et donc, dans un premier temps, Nathan va avoir une réponse très ouverte et va dire à David, « Fais selon ton cœur. » Et on imagine la joie de David, je vais réaliser le projet de ma vie, c'est-à-dire construire un temple pour l'Éternel. Mais dans un second temps, après consultation du Big Boss, Yahvé, Nathan va dire de la part de Dieu, voici ce que déclare l'Éternel, ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple pour que j'y habite. Non, ce n'est pas toi qui vas me bâtir ce temple. Et on imagine la déception de David. À quoi ça sert que je me décarcasse comme du croc et les épices si je ne peux même pas réaliser le rêve de ma vie ? Et vous avez déjà connu ce genre de déception dans la vie ? On connaît ce genre de déception dans la vie, des rêves qui ne se réalisent pas. Et ce genre de déception, c'est comme un rideau qui tombe sur la vie. Tout était ouvert et boum, le rideau tombe sur la scène de notre vie et bouche toute perspective. Déception. Mais surprise, on retrouve David, quelques temps après, en train de chanter des cantiques et dire « Youpla boum, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie, bonjour les hirondelles !» Et il écrit des psaumes à la gloire de Dieu. Après cette déception, non, ce n'est pas toi qui bâtiras le temple de l'Éternel. Déception pour sa vie. Et il semble donc que David ait avalé sa déception, il semble que le rideau de la déception a pu être soulevé. Et David a vu quelque chose que nous, on n'avait pas vu, que quelqu'un a levé le rideau de la déception, et ce quelqu'un, c'est Nathan, qui va lui dire quelque chose de très paradoxal, du genre, ce n'est pas toi qui vas bâtir un temple pour Dieu, mais c'est Dieu qui va te bâtir une maison. 1 Samuel 7, « Enfin, l'Éternel t'annonce qui te constituera une dynastie. » Et l'auteur va jouer sur le mot « bête ».« Bête » en hébreu « b-e-t-h »,« maison », comme dans « Bethléem ».« Maison » à pain, « Bethléem ». Et donc, le mot « bête », »,« maison » a plusieurs significations en hébreu. C'est d'abord dans le sens qui veut dire à la fois temple et maison, maison dans le sens de construction, mais aussi dans le sens de maisonner, de ceux qui désignent ceux qui remplissent la maison, la famille ou la dynastie. Et ce que Nathan lui dit, ce n'est pas toi qui vas me construire une bête, un temple, mais c'est moi qui vais te construire une bête, une dynastie, ou un bête, je ne sais pas comment dire, masculin ou féminin. Vous avez compris, la maison dans les deux sens. Ce n'est pas toi qui vas me construire une maison ou un temple, mais c'est moi qui vais te construire une maison, une dynastie. Et Dieu donc promet une maison éternelle, une dynastie éternelle à David, avec une vue sur l'éternité, non pas vue sur la mer, comme nous avons à l'appartement là, mais une vue sur l'éternité, une dynastie éternelle à David. Et ça dépasse largement la construction d'un temple, d'un petit temple quelque part. Une famille éternelle. Autrement dit, Dieu a un projet pour David, Dieu a un projet pour toi, celui d'une alliance éternelle avec toi, avec David, et avec sa descendance, une alliance fondée sur le projet bienveillant de Dieu. Et c'est ça qui va effacer la déception de David. Et d'ailleurs, il va le dire un petit peu plus loin dans un psaume, dans 2 Samuel 7, 28, il va se réjouir. Voilà. Tu as promis ce bonheur, une alliance éternelle à ton serviteur. Ça a marqué David. Et à la fin de sa vie, il en parlera aussi de cette alliance éternelle. Ça a tout levé, levé le rideau, cette perspective éternelle. Et ça nous marque aussi ce genre de promesse d'une alliance éternelle, parce qu'on sait que cette dynastie éternelle, elle pointe vers un descendant de David, vers un membre de la tribu de Juda qui s'appelle Jésus. Jésus, c'est l'accomplissement final de cette dynastie éternelle. C'est en lui que nous avons cette alliance éternelle. Et comme le souligne l'ange qui l'annonce à Marie, bon, c'est Noël, mais on en approche, c'est un peu tôt, mais on y sera vite. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Une alliance éternelle. Et le rideau se lève quand Nathan parle à David de cette alliance éternelle, et on peut imaginer aussi que le rideau se lève sur nos déceptions quand on laisse Dieu nous parler de cette alliance éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Nos déceptions nous plombent dans la vie. Le rideau tombe quand nous sommes déçus. Mais le Seigneur lève le voile et nous parle d'un projet, de quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau que même les rêves que nous avions ici. Le projet qu'il a pour nous est un projet de toute éternité. Il y a certaines personnes même qui parlent du ministère des déceptions, du ministère de la déception, qui disent que les déceptions de la vie nous amène justement à lever le voile et à regarder autre part, à regarder plus haut, plus grand, vers plus loin. Elles nous rendent service, ces déceptions, parce qu'elles lèvent le voile vers quelque chose de plus beau. Alors, il y a un autre rebondissement à cette histoire de construction du temple, et on fait un bond justement de quelques dizaines d'années. Salomon, le fils de David, est un grand garçon. Et David va lui parler de ce projet de temple, un projet qui lui a été refusé et qui a été promis à son fils. C'est Salomon qui va bâtir le temple. Et le rebondissement dans cette histoire, c'est que David va donner à Salomon la raison première de cette disqualification, de sa disqualification par rapport à la construction du temple. Et il va lui dire, on n'en avait pas parlé jusqu'à présent, mais maintenant, face à son fils, à qui il donne le témoin, David va donner les raisons du choix de lui, Salomon, pour la construction du temple. Et il dit, on lit le texte, « Mon fils David, qui parle à Salomon, j'avais à cœur de bâtir moi-même un temple en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, mais l'Éternel m'a parlé en ces termes. Tu as fait couler beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. À cause de tout le sang que tu as répandu devant moi sur la terre, ce n'est pas toi qui bâtiras le temple en mon honneur. » Et on pourrait être surpris de cette raison donnée à David pour sa disqualification, pour la construction du temple. Ces guerres qu'il a faites, c'était pour établir le royaume, pour sécuriser le périmètre, comme on dit. Et Dieu semblait être à ses côtés, et on lui reproche maintenant d'avoir versé trop de sang. Et David a été surpris et certainement déçu, d'autant plus qu'il croyait bien faire en faisant ces guerres. Mais le choix de Dieu est sans appel. Pour construire le temple, il faut un homme de paix. Mais il te naîtra un fils, ça c'est un peu plus loin, c'est une promesse faite à David, il te naîtra un fils qui sera un homme de paix, Salomon. Je lui assurerai la paix avec tous ses ennemis d'alentour. Il s'appellera Salomon, le pacifique. Et en hébreu, on joue sur l'assonance des deux mots, Shlomo, Salomon et Shalom, paix. Salomon, le pacifique. Et un peu plus loin, il nous est dit de Salomon, c'est la paix à tous les étages avec lui. Il exerçait sa domination sur tout le pays situé au sud-ouest de l'Euphrate et la paix régnait avec tous les pays d'alentour. Pendant toute sa vie, les habitants des territoires de Juda et d'Israël, de Dan à Beersheba, vivaient en toute sécurité, chacun sous sa vigne et son figuier. Quelle belle image de paix. Chacun sous sa vigne et son figuier. Et un peu plus loin, Salomon était en bonne harmonie avec les gouvernements étrangers. Ils conclurent ensemble une alliance. Et si je peux me risquer une incursion dans la politique, il me semble que les gouvernements actuels, l'autorité palestinienne, Israël, Iran, Moscou et d'autres, et la France, tireraient beaucoup de bénéfices à prendre exemple sur Salomon dans leur politique extérieure et intérieure. Vivre en harmonie, chercher la paix. Et Dieu, en choisissant cet homme, ce Salomon, cet homme de Shalom, marque clairement sa préférence. Sa préférence pour la paix, et même plus que cela, plus qu'une préférence. En choisissant Salomon pour construire son temple, Dieu choisit la paix. Dieu choisit la paix. C'est le titre de la prédication, Mathias, pour l'enregistrement. Dieu choisit la paix. Et l'histoire continue. L'histoire du projet de Dieu pour l'humanité et des choix qu'il fait pour cela. Dieu persiste à choisir la paix et cette promesse va s'accomplir dans le Messie, fils de David et de Salomon, de la tribu de Juda, qui est appelé prince de la paix. Ésaïe 9, 2. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Jésus, prince de la paix. Dieu choisit Salomon pour la construction du temple, un homme de paix, et Dieu fait le choix aussi de l'incarnation en Jésus-Christ, le prince de la paix. Dans toute l'histoire, Dieu choisit la paix. Dieu choisit de se battre pour la paix, de se battre jusqu'à la croix pour que la paix revienne, pour que je fasse individuellement, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, la paix avec Dieu, pour que je fasse personnellement la paix avec moi-même, pour que je fasse aussi la paix avec les autres, pour que les peuples aussi fassent la paix entre eux, pour que la shalom de Dieu pénètre les relations et les cœurs. Et ce choix de Dieu pour la paix nous invite à faire le même choix pour nos vies, à devenir des acteurs de paix, des artisans de paix, à marquer quotidiennement notre préférence pour la paix, notre choix pour la paix. Et l'Ancien Testament, malgré les guerres qui y sont relatées, nous appelle à le faire. Et le Nouveau Testament continue et amplifie même l'invitation du shalom de l'Ancien Testament à l'airéné du Nouveau Testament, en grec, qui a donné le mot irène, irène la paisible, on pourrait dire. C'est le choix continu de la paix. Et il y a plusieurs textes que je veux vous citer pour le Nouveau Testament. « Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix. » Et le mot « chercher » en grec du Nouveau Testament, c'est le même mot que pour persécuter. Comme Paul persécutait les chrétiens au début. Et c'est un mot très fort. On nous demande de persécuter la paix, non pas lui faire de mal, mais la chercher dans tous les recoins de la vie. Chercher, rechercher la paix. Et tout ce qui contribue à favoriser la paix, être des chercheurs de paix. Et la Bible nous invite aussi, dans un deuxième texte, à devenir des travailleurs de la paix. On l'a dit tout à l'heure, artisans de paix. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Des travailleurs, non pas seulement des théoriciens de la paix, non pas seulement des penseurs de la paix, mais des travailleurs de la paix, des acteurs de la paix, des artisans de la paix, qui mettent la main à la pâte, et parfois même dans le cambouis, parce que c'est pas facile d'être un artisan de paix. C'est jamais la voie de la facilité, même rarement. Enfin, rarement. Des artisans de paix, des poursuiveurs de la paix, tout cela pour une raison, et c'est le troisième texte, c'est parce que c'est notre vocation en tant que chrétien. Nous sommes appelés à la paix, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Nous avons été appelés à la paix. Et ça s'adresse à l'Église de Jésus-Christ, parce que Paul écrit à une Église, mais cette vocation à la paix dépasse largement le cadre d'une Église. Jésus le dit d'ailleurs dans ses déclarations de bonheur, que l'on appelle les béatitudes, citées par Nathalie tout à l'heure. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Il y a donc une préférence pour la paix dans la Bible, un choix pour la paix, un choix de Dieu, et un véritable appel à la vivre, à la répandre autour de nous si nous sommes véritablement des disciples de Jésus-Christ, le prince de la paix. Alors il y a parfois des limites, hein, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Et c'est vrai, parfois, cela ne dépend pas de nous. Tu cherches la bagarre. Et je peux dire que j'essaye de vivre en paix avec tout le voisinage ici, avec toutes les voitures, les bus, les gars qui fument et qui boivent dans le coin, etc. C'est pas toujours facile. Ils cherchent pas, peut-être pas la bagarre, mais ils cherchent pas la paix. Et parfois, je suis un peu agressif aussi, hein, il faut le dire. Mais bon, voilà. Parfois, on se trouve devant des gens qui ne veulent pas manifestement, qui veulent manifestement la guerre. Et il n'y a pas d'autre solution que de prier pour elle et pour soi. Mais ce réalisme de la Bible, pour autant que cela dépende de vous, nous fait du bien quand même et nous évite de tomber dans une fausse culpabilité qui ne mène à rien. Mais souvent, il faut le constater, la paix dépend de nous. Il y a des occasions ou des kairos, comme dit la Bible, c'est-à-dire des temps particuliers voulus par Dieu qui se présentent à nous et où nous pouvons apporter la paix. Il y a des occasions de répandre la paix dans notre famille, sur notre lieu de travail, qui sont parfois des zones de conflit, dans nos relations interpersonnelles, dans nos discussions sur des sujets difficiles, ou par exemple sur ce sujet difficile de cette guerre au Proche-Orient. Une occasion pour apporter, répandre la paix. Alors il y a certainement aussi un coût pour la paix, demandera peut-être de renoncer à certaines choses, en tout cas à renoncer à la vengeance, ou à certains de ses droits, ou demandera peut-être de se décentrer de ma propre personne qui aime avoir toujours raison. Mais nous pouvons être dans notre petit coin des artisans de paix. Et cet appel, nous devons peut-être l'entendre à nouveau alors que nous vivons dans une période exceptionnellement violente. Hein. Au centre de Cannes, là, j'ai rencontré une dame qui a fait le parcours AFA en 2019. Je l'ai rencontrée il y a 2-3 jours. Et on s'est dit bonjour. Et après s'être saluée très rapidement, elle a tout de suite enchaîné sur le drame d'Israël et de Gaza, en disant « Je ne pensais pas voir cela, je ne pensais pas voir quelque chose comme cela encore aujourd'hui. » Elle était très remuée. On n'a parlé que de ça. Et nous pouvons être remués. Et je dirais même, nous devons être remués par ce qui se passe. Mais nous voulons aussi entendre à nouveau l'appel d'être ici et maintenant des artisans de paix. Retroussons nos manches, hommes et femmes, fils et filles de Jésus-Christ, le prince de la paix. Et pour conclure cette finale magnifique, j'ai terminé, mes frères. J'ai terminé mon speech. Soyez dans la joie, encouragez-vous mutuellement, vivez dans la paix. Et alors, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Quelle belle promesse pour les artisans de paix.